Bonjour. Eh bien, je vous invite à une méditation, pas une étude, une méditation de la parole de Dieu. Je crois que la différence entre l'étude et la méditation, c'est que l'étude permet d'aller plus en profondeur du texte, mais ça, même si ça nous fait du bien à notre cœur, ça s'adresse à notre cerveau. Alors que la méditation, je crois, c'est quelque chose aussi qui se rumine, quelque chose qu'on garde en nous et quelque chose aussi qu'on essaie d'appliquer dans notre vie de tous les jours. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles au psaume 133. Et je crois que Charles va nous projeter ce psaume 133 dans la traduction qui s'appelle la Bible du semeur. Il y a toutes sortes de traductions aujourd'hui, et pour que nous ayons tous un petit peu la même traduction sous les yeux, vous l'avez ici sur le mur. C'est un petit psaume. Il a 3 versets. C'est pas long. Combien a le psaume qui a le plus de versets ? Psaume 119, 176 versets. Et le plus court, le psaume 118, juste avant, je crois, au 117, pas très loin du psaume 119, il a 2 versets. Alors notre psaume 133 ainsi que le psaume 134 ont 3 versets, alors c'est pas long. Mais ce n'est pas la longueur des versets qui détermine la profondeur du texte. Et nous allons donc le lire, ce psaume 133. Cantique pour la route. C'est magnifique. On dit parfois, mais on ne devrait pas le dire, parce que ce n'est pas bien de le dire. Allez, un dernier vers pour la route. Ici, c'est un cantique pour la route. Alors, si vous partez, prenez ce cantique, et d'autres aussi, bien sûr, avec vous, pour la route. Dans les bouchons, ça peut être utile de méditer ou de ruminer ce psaume. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. En route vers la demeure de l'Éternel. De David, psaume de David. Oh, quel plaisir! C'est pour des frères, et on ajoute pour des sœurs, et quel bonheur que d'être ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, et coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Voilà un petit psaume. Ça y est pas ? C'était pas ça ? C'est pas cette traduction-là ? Ah oui, oui, oh, bah, je me suis trompé. Ah bah excusez-moi. J'ai donné la mauvaise traduction à Pierre-Yves qui l'a transmise à Charles. Je pensais avoir donné la traduction de la Bible du semeur, mais non. Bon, ben, ça fait rien. C'est pas grave, vous aurez fait les différences, et puis comme ça, vous aurez peut-être vu que ça vaut la peine aussi de lire dans la Bible du semeur. Le mot psaume, ça veut dire tout simplement louange, cantique, hymne. C'était donc des prières qui étaient chantées, qui étaient exprimées dans le but de chanter, de glorifier notre Dieu. Et ce psaume 133 fait partie d'un ensemble de 15 psaumes, du psaume 120 au psaume 134, qu'on appelle « Cantique des montées », hein, et que la Bible du semeur traduit par « Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel ». C'était des chants que le peuple d'Israël avait l'habitude d'entonner, de chanter lorsqu'il montait à Jérusalem pour les grandes fêtes du peuple d'Israël, notamment Pâques, Pentecôte et la fête des tentes ou des cabanes. Alors David évoque dans ce psaume le bonheur, le plaisir de se retrouver le temps d'un pèlerinage pour glorifier Dieu. Et au psaume 122, qui fait partie de ces cantiques des montées, de ces chants quand on montait à Jérusalem, il dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Alors j'espère que c'est notre cas ce matin, que nous sommes venus ici non par habitude, encore moins par contrainte, mais que nous sommes venus dans la joie de se retrouver pour être dans la présence de Dieu et pour louer notre Dieu. Mais qu'est-ce qui est un plaisir? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait ce plaisir, ce bonheur? Ou comme dit le traducteur second, qu'est-ce qui est bon et si agréable? Eh bien, c'est le fait d'être, d'habiter, de se retrouver ensemble. Et le sens premier de ce verbe traduit ici par « habiter » ou « d'être ensemble », c'est de s'asseoir. Alors, nous sommes dans une église où il y a des chaises et des bancs où nous pouvons, où nous sommes assis. Il y a des églises, notamment les églises orthodoxes. Je me souviens avoir été une fois à l'église, une des églises orthodoxes de Paris, où il n'y a ni banc, ni chaise, où les gens sont debout. Alors ça a l'avantage de mettre beaucoup plus de personnes. Hein. Mais je pense qu'on est quand même plus confortable quand on est assis. Le plaisir de se retrouver en un lieu ne relève pas simplement du fait qu'on fait partie d'une même famille spirituelle, mais qu'on est unis dans l'adoration qu'on apporte au Seigneur, pour le remercier pour tout ce qu'il est pour nous. Alors j'espère que ce matin, nous sommes venus non pas pour nous asseoir, mais pour louer notre Dieu, pour le glorifier et pour recevoir sa parole. Et nous sommes entre frères et sœurs. Alors c'est qui ces frères? Quel plaisir pour des frères et quel bonheur que d'être ensemble. Ce n'est pas le peuple d'Israël dans son ensemble. C'est le peuple d'Israël dans sa fidélité au Seigneur, parmi ceux qui étaient restés fidèles à notre Dieu, à ceux qui offraient un culte au Seigneur, dans une majorité, souvent, peut-être en dehors de quelques périodes de réveil spirituel, mais dans une majorité qui était infidèle au Seigneur. Comme nous, je pense, sans aucune prétention, nous voulons être fidèles au Seigneur au milieu d'une population qui ne se préoccupe pas de Dieu, qui est insensible, qui est indifférente à la voix de Dieu. Il s'agit là de personnes qui louent Dieu. Comme le rappelle le psaume 134, « Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel. » C'est notre privilège ce matin de pouvoir être ensemble pour louer Dieu. Et au verset 2 et 3, David utilise deux images, dont une image un peu bizarre, un peu particulière, hein, celle de Aaron. Alors qui c'est cet Aaron? Il s'agit du frère de Moïse, le premier prêtre de ce peuple d'Israël qui va être constitué dans la terre que Dieu va lui donner. Deux images qui illustrent le rassemblement des frères et des sœurs en un lieu donné. La première image, c'est comme, alors je traduis le parfum le meilleur, hein, l'huile. Alors l'huile, bon, ça fait peut-être penser à l'huile qu'on met dans son moteur ou à l'huile de cuisine, mais ce n'est pas ça du tout. L'huile ici, c'est un parfum. C'est le parfum qui était versé sur la tête de ceux qui étaient consacrés au Seigneur, et notamment les prêtres de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament. C'est ce qui était utilisé pour oindre, pour mettre à part, pour consacrer. Tout à l'heure, nous avons chanté cette parole un peu bizarre, hein. Alors je ne me souviens plus très bien, je ne les ai pas sous les yeux, c'est « Béni soit loin, loin de l'Éternel, hein, loin de l'Éternel ». Alors quand j'étais petit, je pensais que cela voulait dire que c'était très très loin de l'Éternel. Mais loin ici, c'est loin du verbe « oindre », de l'onction, celui qui est consacré, celui qui a reçu cette onction de consécration. Et ici, il s'agit d'Aaron, le prêtre, le grand prêtre du peuple d'Israël. Alors, le prêtre en Israël, c'était quelqu'un qui était mis à part. N'importe qui ne pouvait pas être ou prétendre à être prêtre. Il fallait plusieurs conditions strictes pour être prêtre. Premièrement, il fallait faire partie de la tribu de Lévi. Vous savez que le peuple d'Israël a été divisé en 12 tribus qui portaient le nom des 12 ou des descendants de Jacob. Et chaque tribu, chaque famille avait reçu un territoire quand ils sont arrivés en Canaan, ce territoire d'Israël, sauf la tribu de Lévi, qui, elle, n'avait pas reçu de territoire. Il devait se disperser dans toutes les tribus, mais c'était une tribu qui était réservée à la prêtrise. Donc, il fallait faire partie de la tribu de Lévi. Si vous faisiez partie de la tribu de Juda ou de la tribu de Benjamin ou des autres tribus, vous ne pouviez pas être prêtre en Israël. Deuxièmement, il fallait être un homme et pas une femme. Troisièmement, il fallait ne pas avoir de défauts corporels. Non pas que ceux qui avaient des défauts corporels étaient mis à part, mais c'était comme ça, il fallait, voilà. Hein. Et il y avait aussi des périodes où les prêtres ne pouvaient pas exercer en raison de, voilà, de quelques imperfections, maladies, etc. C'était donc très strict. Et ces prêtres avaient reçu, le grand prêtre avait reçu donc l'onction, et c'est l'image ici de cette onction qui est comme répandue sur la tête d'Aaron et qui déborde jusque sur le bord de ses vêtements. Et certaines traductions mettent jusqu'au col de ses vêtements. Eh bien, le Nouveau Testament nous dit que Jésus est notre grand prêtre. Hébreux, chapitre 4, verset 14, « Puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent, qui après avoir traversé les cieux est auprès de Dieu, demeurons fermement attachés à la foi. » Jésus est notre grand prêtre. Nous n'avons plus besoin de prêtres humains, c'est-à-dire d'hommes qui nous servent d'intermédiaires entre Dieu et nous, parce que Jésus est notre grand prêtre. Et cela nous suffit, j'allais dire, parfaitement. Voilà, il n'y a plus besoin d'avoir d'autres prêtres. Jésus est notre seul médiateur, dit Paul à Timothée. Et Jésus, en Luc chapitre 4, dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » Donc il a reçu cette onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Alors Jésus est notre grand prêtre, et parce qu'il est notre seul grand prêtre, nous sommes, nous aussi, prêtres, hommes et femmes, frères et sœurs, nous sommes prêtres. C'est-à-dire que nous allons à Dieu directement, c'est-à-dire que cette onction est répandue sur nous, nous qui sommes le corps de Christ, dont il est la tête. Et le parallèle entre cette onction de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit, bien sûr, qui est répandu sur chaque enfant de Dieu, sur chaque chrétien, et qui fait de nous des prêtres. Si vous notez les références, vous pouvez noter 1 Pierre chapitre 2, verset 9, Apocalypse chapitre 1, verset 6, qui dit que nous sommes tous prêtres devant Dieu, puisque nous avons tous reçu cette onction, le Saint-Esprit répandu sur nous. Tite, chapitre 3, verset 6, ce Saint-Esprit, il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors, ce que David écrit ici concernant ce grand prêtre est adapté et pour chacun d'entre nous aujourd'hui, si nous appartenons au Seigneur, puisque du fait que Jésus est notre grand prêtre, nous sommes nous aussi prêtres. Hommes et femmes, je le répète, parce que nous n'avons pas l'habitude de considérer que les femmes, puisque ce n'était pas le cas dans l'Ancien Testament, puissent être des prêtres. C'est déjà dans cet Ancien Testament l'annonce de ce qu'on appelle le sacerdoce universel qui se trouve dans le Nouveau Testament. Et déjà dans Exode chapitre 19 verset 6, Dieu dit par Moïse au peuple d'Israël, et là je cite, « Quant à vous, dit-il au peuple d'Israël, vous serez un royaume de sacrificateurs, c'est-à-dire de prêtres, une nation sainte. » C'était déjà le cas dans l'Ancien Testament, mais avec la nuance qu'il y avait une prêtrise qui servait d'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Deuxième image dans ce psaume 133, une image de rafraîchissement, une image de rosée qui descend de la haute montagne qui est située au nord d'Israël, le mont Liban, et qui se retrouve à Jérusalem, au sud, sur le mont Sion, la colline de Sion, et qui bénéficie ainsi de la rosée qui vient de la montagne qui se trouve au nord d'Israël. Et le mont Sion ici, bien sûr, c'est le mont sur lequel a été construit le temple de Jérusalem. Et la rosée, c'est le symbole aussi du Saint-Esprit, mais du rafraîchissement, du ressourcement. Et c'est lors d'une de ces trois grandes fêtes en Israël, la fête des cabanes, que Jésus s'est écrié « Debout, comme pour avoir plus de force, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » C'est l'image de l'abondance qui est déversée sur soi puis sur les autres. C'est l'image de cette eau aussi qui rafraîchit, qui coule. Hein. C'est l'image de la vie, surtout dans les pays chauds. L'eau est le symbole de la vie. Et c'est de cet esprit que nous sommes venus nous abreuver aussi ce matin. Car il ne servirait à rien que nous chantions des cantiques, que nous prions, que nous écoutions la parole de Dieu, si le Saint-Esprit ne faisait pas son œuvre dans nos cœurs, ou encore si nous n'étions pas ouverts à l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur. Et je veux souligner deux dénominateurs communs, deux choses communes qui se trouvent dans ces deux images. Toutes ces deux images parlent d'un mouvement descendant. Et toutes parlent d'un rapprochement de ce qui est éloigné. Alors, dans la première image, c'est du haut de la tête jusqu'au vêtement, jusqu'au col, jusqu'au vêtement, donc de haut en bas. Et cela rapproche aussi, on pourrait dire, le haut des cheveux jusqu'au bas de la barbe d'Aaron. Et la deuxième image, cela rapproche ce qui est éloigné, alors là, avec une distance beaucoup plus importante, le mont Liban, hein, le Liban, et Jérusalem qui se trouve vers le sud d'Israël. Et l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, « Vous qui autrefois étiez loin, loin de ce rapprochement en Dieu, loin de ce peuple de Dieu, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. » C'est le miracle de la grâce. Le Seigneur nous rapproche de lui, et il nous rapproche aussi les uns des autres en faisant de nous des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Et David ajoute, c'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction. Alors, il y aurait sans doute beaucoup à dire sur ce mot bénédiction. Ce mot bénédiction, beraka en hébreu, a donné en arabe, parce que l'arabe est une langue sémitique comme l'hébreu, baraka, et ça a donné en français avoir la baraka, c'est-à-dire avoir de la chance. Mais l'écriture ne parle pas de chance, parce que dans le mot chance, il y a un peu le mot hasard, il n'y a pas le mot Dieu en tout cas. Mais l'écriture, au lieu de parler de chance, parle de bénédiction. Bénédiction, c'est le bien que Dieu nous fait, ou le bien qu'il nous souhaite, mais pas seulement qu'il nous souhaite, parce qu'on peut se souhaiter le bien, tout le bien du monde qu'on veut, sans avoir aucune influence sur ce bien. Quand en début d'année, on se souhaite la bonne année, c'est très joli, c'est très bien, hein, je le fais aussi, j'ai rien contre. C'est un vœu, mais ça reste un vœu pieux, peut-être accompagné de nos prières, mais c'est tout, ça ne va pas plus loin. La bénédiction de Dieu, elle enrichit, c'est une vraie bénédiction. Dieu nous bénit, c'est-à-dire qu'il nous fait du bien, il nous accorde le bien. Et c'est le Seigneur qui est source de la bénédiction et qu'il envoie sur son peuple, ce peuple qui le loue. Et cette bénédiction trouve son prolongement par rapport à ce psaume ou son accomplissement par rapport à l'Ancien Testament en Christ, dont l'œuvre est reçue comme une bénédiction. Éphésiens 1, 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes, de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Alors nous sommes venus ce matin pour bénir le Seigneur, le bénir, le louer, le glorifier, le remercier. Mais en retour, c'est nous qui sommes bénis. C'est nous qui recevons sa bénédiction. C'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé. Et il le fait par sa parole, qui est comparée à de fraîches rosées, qui vivifie, qui redonne la vie. Il le fait par son esprit, qui est symbolisé par ce courant d'eau, hein, d'eau vive. Mais cette bénédiction est aussi liée au choix que nous faisons dans notre vie. Choisir l'obéissance à Dieu, Deutéronome 32:2, c'est choisir la vie, c'est choisir la bénédiction. Ainsi, ce tout petit psaume prend tout son sens dans l'accomplissement de l'ancienne alliance par le Christ. Et nous vivons, j'espère que nous le faisons, ce psaume chaque dimanche. Et à chaque fois que nous nous réunissons entre membres de la même famille spirituelle. Alors pour David, c'était à Jérusalem. C'est là que Dieu donne la bénédiction. Cette bénédiction qui pour David est synonyme de vie éternelle. Pour nous, c'est en Christ. Ce n'est plus lié à un lieu donné. D'ailleurs, Jésus l'a bien dit à la Samaritaine, Jean 4, l'heure vient où ce ne sera plus sur cette montagne de Samarie ou à Jérusalem que vous adorerez le Père. L'heure vient, et c'est maintenant, dit Jésus, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Et je crois qu'il faut mettre un E majuscule à esprit, c'est-à-dire dans l'esprit de Dieu, et en vérité, car c'est aussi un esprit de vérité. Et cette bénédiction se transmet là où les enfants de Dieu se réunissent dans l'unité et dans l'amour. Alors, d'où l'importance de nos rencontres. Mais ce n'est pas à vous que je dois le dire, c'est à ceux qui ne sont pas là, ou qui ne viennent plus, pas à ceux qui sont en vacances, mais à ceux qui ne viennent plus, qui négligent, qui abandonnent, comme dit aussi l'Épître aux Hébreux, n'abandonnez pas votre assemblée, qui abandonnent leur Église. C'est là que se trouve la bénédiction. Pourquoi ? Parce que c'est là que nous sommes encouragés. Nous qui avons besoin d'être encouragés dans notre vie de tous les jours, c'est là que nous recevons la parole de Dieu et que nous recevons les encouragements de nos frères et de nos sœurs, J'espère que nous nous encourageons les uns les autres et pas que nous nous décourageons. Parfois, sans le faire exprès, nous pouvons dire des paroles de découragement. Par les nouvelles que nous échangeons, qui nous incitent à prier les uns pour les autres, nous demandons que le Seigneur les bénisse. Et par la vision que le Seigneur renouvelle en nous, qui nous pousse à nous mettre à son service, à être fidèles, obéissants. Alors je doute que si nous restons seuls chez nous, nous recevions les mêmes bénédictions. C'est ensemble que nous sommes bénis et c'est comme cela que le Seigneur a voulu, que nous soyons unis pour le glorifier et pour recevoir sa bénédiction. Alors que cela nous aide, ce petit psaume, à nous réjouir en Dieu, à le glorifier, à nous aimer les uns les autres, à prier les uns pour les autres, et que nous puissions aussi méditer, ruminer à travers cette journée, peut-être cette semaine, ce petit psaume de 3 versets. Quel plaisir, quel bonheur que d'être ensemble. Je vous invite à chanter 2 strophes d'un cantique. Alors nous le ferons sans musique, mais ça ne fait rien, parce qu'il est peut-être un peu tard à André de le préparer. 205, nous chanterons la strophe 1 et la strophe 4, qui nous dit que le Seigneur nous illumine de sa présence divine et que nous voulons lui plaire et qu'il puisse faire de nos cœurs son sanctuaire. Alors, si nous ne le connaissons pas, nous sommes peut-être 2 à 3 à le connaître, et ça suffira pour que nous puissions entraîner tous les autres. Chantons ce cantique 205. Levons-nous pour le chanter, strophe 1 et 4, peut-être pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Strophe 1 et 4.
Le Seigneur s'incline et nous illumine de sa présence divine. Sa croix nous rassemble et notre cœur tremble et qui chante tous ensemble. Adorons, présentons notre humble requête en courbant la tête.
Et puisque vous chantez si bien, prenons la 3e strophe.
Seigneur, riche en grâce, en toute la classe, devant toi que tout s'efface. Remplis nos mains vides, nos cœurs sont avides, qu'enfin toi seul y réside.
Présence sainte, nous voulons te plaire, viens et règne faire de nos cœurs ton sanctuaire. Rends nos mains pures, lave nos souillures par le sang. Nous t'aimons, nous voulons avec allégresse te servir sans cesse.
Amen. Et bien que ce ne soit pas un vœu pieux, ce chant, cette prière adressée à Dieu, mais vraiment le désir de notre cœur. Prions Dieu. Seigneur, merci parce que tu as fait de nos cœurs ton sanctuaire. Merci parce que nous sommes tes enfants et tu habites en nous par le Saint-Esprit. Aussi, tu n'es pas attaché à un lieu précis, mais tu es en nous et nous te portons en nous, là où nous nous déplaçons. Et tu es toujours avec nous, que ce soit le matin, le soir, la nuit, tu es toujours là. Merci parce que tu nous fais cette bénédiction et cette grâce immense d'être sauvés en Jésus-Christ, d'avoir reçu le pardon de nos péchés et aussi la vie éternelle. Bénis encore chaque personne ici présente, que nous puissions nous réjouir d'être ensemble, nous réjouir d'avoir écouté ta parole, nous réjouir d'avoir pu te louer, te glorifier si librement, sans autre intermédiaire que toi-même, qui es mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. Sois aussi avec tous ceux qui sont absents aujourd'hui, bénis-les là où ils se trouvent, et en particulier, nous te prions pour ceux qui souffrent. Bénis-les aussi et réponds à leurs prières, et que nous sachions aussi nous joindre à leurs prières pour te demander leur rétablissement ou leur soulagement. Te prions pour Madame Ravassar. Te prions aussi pour la famille de Serge Jacquard en te demandant de la bénir. Merci encore pour ta grâce qui nous accompagne et accompagne chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen.